Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAC 88.3. On parle ce matin avec la finaliste au prix en 2023 pour « Les marins ne savent pas nager » pour discuter de son essai qu'elle publie, « Ces ados qui font mentir les clichés en vente » au précédent événement du printemps des passeurs ici sur le campus de l'Université de Sherbrooke. C'est Mme Dominique Scali. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en 2023, votre roman « Les marins ne savent pas nager », vous avez valu d'être finaliste au prix du printemps des passeurs. Qu'est-ce que représentait cette reconnaissance-là pour vous?
Comme toutes les reconnaissances, évidemment, c'est très flatteur. C'est toujours une des belles occasions d'avoir accès aux lecteurs et de continuer à faire rayonner un livre. C'est toujours un peu étonnant la vie que peut avoir un livre longtemps après sa publication. Là.
Donc c'est ça, cette année, vous reveniez au printemps des passeurs, non pas en tant que finaliste, mais en tant qu'invité spécial du festival. Quel a été le rôle, en fait plutôt, quel rôle joue ce type d'événement-là dans le parcours d'un écrivain ou d'une écrivaine?
Bien, je dirais que c'est vraiment des moments, en fait. C'est toujours des moments où on fait des rencontres, où on rencontre soit d'autres écrivains avec qui on se découvre des affinités ou qui nous font réfléchir, ou encore des rencontres avec des lecteurs qui nous parlent de comment ils ont reçu le livre, ce que ça leur a fait, tout ça. Donc, c'est vraiment un cas de... C'est pas tant la quantité que la qualité, des fois. C'est juste... Ouais. Certaines rencontres marquantes, en fait, que ça peut occasionner.
Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit de ces rencontres-là avec votre public, finalement?
Ben, en général, il y a toutes sortes de situations. Là, mettons, si je pense à toutes les genres d'occasions comme ça, il y en a une qui m'a particulièrement... touché en 2024, quand j'étais au Salon du livre de Paris l'année passée, il y a une jeune femme qui est venue après me rejoindre et finalement, elle était venue m'écouter parce qu'elle avait réalisé qu'on avait échangé il y a très, très longtemps quand on écrivait toutes les deux du fanfiction sur Internet. Donc, c'est le genre de... J'étais complètement bouleversée, là.
Il y a un passif fanfiction?
Oui.
OK.
Donc, bon, tu sais, avec les marins, ça ne va pas manger. Ça va beaucoup être des gens qui vont reconnaître un peu l'histoire de leur famille ou qui vont reconnaître l'aspect marin un peu qui est évoqué dans le livre, qui, tu sais, pour moi, c'est purement imaginaire. Tu sais, je me suis basée sur une réalité historique, mais c'est pas ma réalité à moi. Et puis là, il y a des gens qui viennent me dire que finalement, ça leur fait penser à leur grand-père qui était pêcheur. Et puis, donc, ce genre de rencontre-là, c'est toujours bouleversant.
Ryan, tu me faisais signe.
J'avais une question, c'est bien, vous mettez le doigt dedans, si on peut le dire. En fiction, l'auteur peut tout inventer, et là vous parlez un peu d'inventer, mais alors que dans l'essai, il faut s'appuyer sur des faits, des témoignages de recherche. Comment vous abordez du coup ce travail d'écriture plus ancré dans le réel que d'habitude? Parce que quand même là, vous me parlez un peu d'un... Vous avez un peu un champ lexical de l'imagination, quelque chose qui serait venu de votre esprit, mais en soi. Vous avez un peu cherché à formater des choses réelles dans le contenu de ce livre.
Là, vous parlez des marins ne savent pas nager, j'imagine, ou des ados qui font mentir les clichés. Oui, les marins, OK. Mais en fait, c'est que pour moi, c'est vraiment... c'est que l'un nourrit l'autre. La réalité historique à laquelle je me suis abreuvée, c'est vraiment... Ça vient nourrir l'imaginaire, en fait. Donc oui, c'est ça, c'est de la fiction. D'ailleurs, ça se passe sur une île qui est imaginaire. C'est comme une espèce de 18e siècle alternatif, tout ça. Mais en lisant énormément sur la navigation, sur comment fonctionnaient réellement les bateaux à cette époque-là, la marine à voile, tout ça, la réalité matérielle, la réalité culturelle de l'époque, ça me permettait de créer un monde qui goûte vrai, qui sent réel, même si tout est inventé, finalement.
Mais à ce titre, est-ce qu'il y a certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on essaie de mettre en place une œuvre de fiction ou alors peut-être un essai? Par expérience, selon vous?
les difficultés en général ou qui sont spécifiques à la fiction?
Spécifiques à votre style d'écriture.
Ben bon, si on prend l'exemple, par exemple, des marins, la grande difficulté que j'ai eue, le principal défi que j'ai eu, c'est que, bon, j'invente une île qui est située au milieu de l'Atlantique, ça se passe au 18e siècle. Mm-hmm. Comment je fais parler mes personnages? Il y a toute la question des dialogues qui est un problème parce que je ne peux pas leur donner.
Parce qu'on a 18e
siècle, je peux pas
les
faire parler en québécois. Mm-hmm. Parce que c'est pas au Québec. Je peux pas le faire parler en français de France parce que ce français de France-là n'existait même pas encore. Mm-hmm. Donc, ça a commencé vraiment comme un problème. Et en fait, c'est devenu un des moteurs, en fait, d'écriture du livre. C'est que je me suis dit, je dois inventer d'une certaine façon la langue que je donne à ces personnages-là.
Mais c'est vrai, en vrai.
Et sinon, ben voilà, donc nouvel essai, ces ados qui font mentir les clichés. On entend souvent ce discours-là qui est un peu négatif sur les adolescents, bon, qui sont trop sur leur écran, déconnectés, etc., etc. Comment votre essai aborde le sujet aujourd'hui, avec la réalité d'aujourd'hui, en fait?
Mm-hmm. En fait, c'est ça. Moi, ça a commencé comme je suis aussi journaliste au Journal de Montréal, donc c'est basé sur une série d'articles que j'ai publiés depuis mon Dieu, quand est-ce que j'ai commencé ça? 2017, je pense. En fait, le projet, c'était de suivre des jeunes qui sortaient du secondaire, de les suivre pendant 5 ans. Et c'est toute une réflexion autour du système d'école à 3 vitesses, parce que les jeunes que j'ai suivis font partie ils sortaient d'une école de Montréal, une école secondaire qui avait très mauvaise réputation.
Okay.
Et une école qui a tellement mauvaise réputation que le nombre d'élèves s'est amenuisé au fil des ans. Et moi, quand je suis allée les rencontrer dans leur cours de français de secondaire 5, ils étaient juste une quinzaine, en fait. Une quinzaine de finissants dans toute l'école. Donc ça a été assez facile de suivre leur parcours, la sortie du secondaire, l'entrée au cégep, tout ça, tous les questionnements qui viennent avec ça. Et ça, au final, on se rend compte que ces jeunes-là qui se sont fait dire qu'ils n'allaient rien faire dans la vie parce qu'ils allaient dans une école de poké, parce qu'ils allaient dans une école où il y avait de la drogue, une école violente, tout ce qui est faux en réalité. En réalité, ils se sont retrouvés dans une école où tout le monde se connaît, où il y avait à peu près pas tant de tous ces problèmes-là.
Dans toutes les écoles, il y a ces problèmes en vrai.
Oui, ces problèmes-là existent, mais c'est que la réputation
à des degrés différents. Moi, je dirais à des degrés différents, mais ça existe dans toute école.
Tout à fait, mais c'est que la réputation était surfaite, en fait.
Donc, je vois ce que vous voulez dire.
Donc, ils se sont retrouvés à se faire dire par leurs amis qu'ils allaient vivre ces réalités-là, alors qu'en réalité, leurs amis qui étaient dans d'autres écoles les ont vécues davantage.
Aussi, c'est ça.
C'est ça l'ironie.
Ouais.
Et au final, et c'était une école aussi où il n'y avait pas de programme particulier, de projet particulier, parce que c'est un peu ça qui fait que le système scolaire au secondaire... au Québec est rendu très divisé, écrémé. C'est que tous les jeunes qui ont du talent ou qui réussissent bien à l'école vont aller dans des programmes particuliers sélectifs, alors que les autres vont se retrouver dans une école ordinaire où il n'y a rien de particulier. Ces jeunes-là étaient dans une école ordinaire et finalement, ils sont tous allés au cégep. Il y en a la moitié qui sont allés à l'université, il y en a une qui a fini une maîtrise bidiplômante en droit. Donc, quand on dit faire mentir les clichés qu'on associe à l'école ordinaire, ces jeunes-là le font pas à peu près. Là.
Non, effectivement. Est-ce que c'est comme une école de fond de classement, comme on dit quand il y a le classement des écoles secondaires du Québec, par
exact,
exemple?
Exact, c'est ça. Okay, c'est pas une école qui paraissait bien dans les classements du tout. Là.
Ryan?
Moi, j'avais une petite question. On sait que l'adolescence, ça reste une période où la lecture peut jouer un rôle fondamental dans la découverte de soi et du monde. Selon vous, vous avez le droit de choisir. Allez, vous choisissez 3 livres. Quelles sont les œuvres qui, selon vous, devraient être absolument mises en avant dans la main des jeunes? Moi, par exemple, je sais qu'on m'aurait passé Père riche, père pauvre, Le prince de Machiavel et Illusion manipulation de Brown. J'aurais adoré ma vie en adolescent. Mais malheureusement, je les ai découverts que. Enfin, je dis adolescent. Mais bref, je les ai découverts il y a 2 ans. J'ai fini de les lire les 3 il y a 2 ans. Vous, ça aurait été quel livre? Vous avez le droit de 3 livres.
Eh boy, j'ai aucune idée. J'avais pensé à ça. J'aurais fallu que je me prépare un peu pour vous trouver des livres. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je suis pas certaine que bon, je suis pas enseignante, hein, je couvre l'éducation, mais je suis pas didacticienne ou quoi que ce soit, donc je suis un peu mal placée pour le dire. Par contre, si je me fie à ma propre expérience, je me souviens que l'enseignante de français qui m'a le plus marquée au secondaire, c'était justement une prof qui nous avait pas imposé des livres, mais qui nous avait donné une liste d'une centaine de livres qu'elle avait lus, et elle nous les avait tous présentés un à un.
Wow.
Et ça nous avait tous donné envie de tous les lire. Donc, finalement, il fallait qu'on en lise seulement trois et on s'est retrouvés à en lire plein parce que là, ton ami en a lu un autre puis a dit hey, « ça, c'est bon ». Et ça a comme créé une espèce d'ébullition où beaucoup de gens dans la classe sont devenus des grands lecteurs, dont moi.
Okay.
On dirait que cette initiative-là me fait croire que ben, à quel point est-ce que c'est le choix des livres ou comment on implique les jeunes dans la lecture qui fait une différence. En tout cas, je lance ça, là.
Non, mais c'est un bon point. Parce que des fois, c'est ça, une lecture imposée est peut-être moins intéressante que d'avoir eu le choix de la sélectionner. Mais c'est pas... Ça me semble être une bonne idée d'avoir plus qu'une option. On doit malheureusement s'arrêter parce que le temps file. À découvrir ces ados qui font mentir les clichés, mais également les marins ne savent pas nager. Dominique Scalier, on peut également vous lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Au revoir. On fait une courte pause musicale ici sur les ondes de CFAQ.